EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous étudions ensemble l'Apocalypse et la gloire à venir. Souvent, quand on parle de l'Apocalypse, les gens s'imaginent toujours au fléau. Les gens ont même peur de lire ce livre merveilleux. Mais en fait, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, premier chapitre au troisième verset, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Donc, la Bible nous dit que si nous lisons ce livre-là, nous serons bénis. Mais plusieurs ne sont pas bénis à ce niveau-là parce qu'ils disent « Ah non, j'ai trop peur de lire ce livre ou c'est trop compliqué pour moi, il y a trop de symboles. » Et je comprends que c'est pas un livre hyper facile à lire. Si on compare avec l'Évangile de Jean, par exemple, le livre des Actes des Apôtres, on fait une comparaison, c'est clair que l'Apocalypse, c'est un livre beaucoup plus compliqué. Mais heureusement, l'Esprit de Dieu est là pour nous. Et puis, on ne prétend pas tout savoir, sauf qu'on croit que Dieu nous enseigne dans ses voies comme on fait une étude, pas simplement du livre, mais de toute la parole de Dieu. Donc, la Bible s'interprète par elle-même. Je vais lire des choses dans l'Apocalypse et je vais retrouver d'autres éléments semblables dans le livre de Daniel, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel. Donc, je fais des comparaisons dans la parole de Dieu et j'arrive à une bonne interprétation. Mais on veut demeurer dans l'humilité parce qu'on ne prétend pas tout savoir. Et il y a des gens dans notre monde chrétien qui prétendent tout savoir, mais ce n'est pas l'émission Vie de foi. Mais nous sommes des étudiants de la parole de Dieu ensemble et on veut vous encourager à étudier avec nous. Si vous dites, bien moi, je n'ai jamais étudier le livre de l'Apocalypse, parce que justement, comme tu dis, Pasteur Joël, j'ai eu peur de lire ce livre ou j'étais trop intimidé. Bien, j'aimerais vous dire également que j'ai préparé des commentaires bibliques pour vous aider à la maison. Donc, vous pouvez voir à l'écran les commentaires bibliques, en fait, que j'ai commenté, en fait, le livre de l'Apocalypse. En fait, en général, je pourrais dire tous les versets de l'Apocalypse ont été commentés. Vous allez voir le texte en noir, donc c'est la parole de Dieu inspirée, et mes commentaires bibliques en rouge pour faire la distinction. Donc voilà, vous pouvez visiter le site web emctv.com pour retrouver les commentaires sur l'Apocalypse. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que finalement, ils comprenaient bien le livre et puis ils étaient bénis parce que justement, ils ont découvert le sens de ces textes-là. Donc, au premier abord, on peut trouver ça compliqué, mais après, comme on étudie, on dit « Ah, OK, les choses semblent faire du sens. » Alléluia pour ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'enlèvement de l'épouse de Christ et on va parler de la grande tribulation. Donc, deux thèmes fort intéressants, deux grands thèmes pour une seule émission de 30 minutes. Ensemble, on va avancer dans les voies de Dieu puis on va pouvoir s'enraciner. Je veux vous encourager, vous connaissez ça, un stylo, prenez en note les versets bibliques parce que c'est vraiment impossible pour moi de lire tous les versets avec vous. Mais si vous êtes sérieux et vous voulez vraiment faire une bonne étude à la maison, prenez en note les références bibliques et prenez le temps d'étudier à la maison après l'émission. Donc, premièrement, si on parle de l'enlèvement de l'Église, mais c'est quoi ça, l'enlèvement de l'Église? Est-ce que c'est vraiment biblique? Certaines personnes aujourd'hui nous disent qu'ils ne croient plus dans l'enlèvement et même s'ils ont cru autrefois, ils disaient « oui, je crois dans l'enlèvement », mais aujourd'hui, non, je pense que c'était vraiment une fausse doctrine. Bien, vous savez, comme on a vu hier, il y aurait un départ de la foi. Plusieurs personnes qui croyaient à la parole de Dieu, après un certain moment, plusieurs vont s'éloigner de la parole de Dieu. Ils vont vivre ce qu'on appelle l'apostasie, un départ de la foi. Ceci ne veut pas dire qu'ils sont totalement perdus. Il y a des gens qui aiment vraiment le Seigneur, mais qu'ils ont peut-être méprisé le texte biblique, qui sont sauvés, mais peut-être ils ont cru des mensonges dans le corps de Christ qui circulent, par exemple, où il y a des gens qui disent « non, non, c'est vraiment une doctrine qui a été inventée dans les années 1800 ». Bref, on revient au texte biblique, parce que le texte biblique va toujours nous dire la vérité. Amen. Donc, venez avec moi. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 15, nous allons voir c'est quoi ça, l'enlèvement de l'épouse de Christ et on va voir ensemble que c'est absolument biblique. Donc, on peut mettre à l'écran maintenant image numéro 5, 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 16, nous lisons, en fait, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc, voilà le texte biblique qui nous affirme que nous serons tous enlevés. Si on parle d'être enlevés, nous parlons d'un enlèvement. Et le mot en grec, c'est le mot harpazo, qui veut dire justement être pris d'un seul coup, comme ça. Et puis, on va comprendre, en fait, ce texte-là se réfère à l'Église du Seigneur Jésus-Christ préparée. Donc, tous ceux dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie et qui ont été préparés pour les noces de l'agneau. Et on va reprendre ce texte maintenant et je vais vous lire, je vais mettre sur pause, en fait, ma lecture, juste pour vous aider à comprendre le sens global. Donc, je vais reprendre cette fois-ci au verset 15. « Voici en effet ce que nous avons déclaré d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement ou pour le retour dans les airs du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Donc ici, on parle des saints, tous ceux qui étaient sauvés, les saints du passé. Okay? Donc ici, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Au verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Ici, on parle du retour de Jésus dans les airs. Ce qu'on veut comprendre, c'est que le retour du Seigneur Jésus-Christ se fait en deux phases. Premièrement, l'enlèvement de l'épouse. Deuxièmement, le second retour de Christ sur la terre, lorsque le Seigneur Jésus va venir, en fait, et atterrir, il va mettre ses deux pieds sur le mont des Oliviers. Donc, on parle de l'enlèvement de l'épouse et deuxièmement, du second retour de Christ. La première phase, en fait, implique le Seigneur dans les airs et son épouse va à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Okay? Donc, on veut faire la part des choses parce que des fois, on comprend mal entre l'enlèvement et le second retour de Christ. Mais c'est deux événements différents, mais qu'on peut comprendre dans un seul événement, si on veut, mais en deux phases. Donc, je reprends le verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. » Donc, on parle ici du retour de Jésus dans les airs. « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés. » Pourquoi? Rester pourquoi? Pour l'enlèvement. Donc, nous les vivants, rester pour l'enlèvement, nous qui vivons à ce moment-là, nous serons tous ensemble, nous tous les vivants de l'épouse de Christ, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, donc sans mourir ici, là. On ne meurt pas. À la rencontre du Seigneur et des saints, OK, qui viennent de ressusciter, donc les saints qui viennent de ressusciter, les saints qui n'étaient pas vivants au moment de l'enlèvement de l'Église, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, voilà l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et le verset ou le passage des Écritures qui nous prouve bibliquement que l'Église sera enlevée. L'enlèvement sera invisible, mais tous parleront de l'événement universel. Si vous dites, est-ce que c'est possible que le Seigneur Jésus va venir chercher son épouse? Absolument. Et en fait, dans le Nouvel Âge en ce moment, il y a plusieurs personnes qui écrivent d'un phénomène qui va se produire prochainement. Et ces gens-là disent en fait qu'ils communiquent un message des extraterrestres. C'est spécial comment les gens fonctionnent. Mais les gens, ces gens-là, dans le Nouvel Âge et dans la sorcellerie, comme vous voulez dire, mais ces gens disent qu'ils communiquent un message des extraterrestres qui, en fait, leur disent qu'il y a une catégorie de personnes sur la Terre qui sont retardés dans leur évolution. Ces gens empêchent l'évolution de la race humaine. Alors, des extraterrestres viendront sur la Terre, et là on parle d'OVNI, ils vont venir et prendre ces êtres humains, les enlever et les recycler sur d'autres planètes. Ça vous fait rire, certainement, mais en fait, le royaume des ténèbres prépare déjà l'enlèvement de l'épouse de Christ. C'est intéressant quand même, quand on voit que même les ténèbres annoncent la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais d'une autre façon, pour justement séduire les nations. Et les gens vont vraiment croire dans les extraterrestres. Les gens vont vraiment croire dans les ovnis et tout ce qu'on peut entendre, qui sont là en fait, oui, mais on parle vraiment d'esprits méchants quand on parle des ovnis. Et même, je crois, hier, j'écoutais sur la chaîne de télévision Fox News, les nouvelles américaines, qui parlait justement que les États-Unis, maintenant, le gouvernement américain, ce gouvernement fait des études sur les ovnis. Ils ont changé le nom pour ne pas parler des UFO comme autrefois, parce que quand on parle de UFO ou des ovnis, les gens sont ridiculisés. Donc, ils ont changé un peu la façon de désigner cette étude. Mais en gros, ils font des études en ce moment sur les objets qui volent dans le ciel. Mais nous savons que tout ça, c'est une préparation pour l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme juste pour récapituler, il y a le retour du Seigneur, mais en deux phases. On parle de l'enlèvement de l'Église, donc le Seigneur Jésus revient, mais seulement dans les airs. Et la seconde fois, lorsqu'il va revenir, ce sera après la grande tribulation, donc dans 7 ans. Et c'est là où il va venir s'établir sur la terre. Amen. Et on peut lire, en fait, la confirmation de ce que je viens de vous dire dans Zacharie, chapitre 14, au verset 4, où nous lisons « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers. » Donc, on veut faire la distinction entre les deux phases, sinon on va être mélangé dans notre étude biblique. OK, j'aimerais ça maintenant aller à l'image numéro 3, s'il vous plaît. Parce que si vous dites, oui, mais Pasteur Joël, il y a un seul verset que tu nous as lu, un seul passage. Mais dans Jean 14, versets 2 et 3, nous voyons ici, en fait, une autre promesse concernant le retour du Seigneur. « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Donc, je vous prendrai avec moi. Ce texte nous dit, en fait, que le Seigneur Jésus va revenir chercher son épouse. Il va nous prendre avec lui. Amen. Donc, voilà une autre confirmation. Donc, c'est pas simplement 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17 qui nous en parle, mais aussi dans l'Évangile de Jean. Si on va maintenant à l'image numéro 4, nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 51, nous allons voir également ici, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, alléluia, incorruptibles, et nous serons tous changés. Amen. Nous serons changés. Gloire à Dieu. Donc ici, encore une fois, ce texte nous parle que nous ne mourrons pas tous, mais pourquoi pas? Parce qu'il va y avoir l'enlèvement de l'épouse de Christ. Donc l'épouse sera enlevée sans mourir et elle va passer 7 ans au ciel. Vous allez dire, mais pourquoi ça que l'épouse va être enlevée? Parce qu'il va y avoir un temps de jugement sur la terre qu'on appelle la tribulation et la grande tribulation. Et puis, oui, il y a toujours eu des tribulations et le Seigneur Jésus a dit, en fait, qu'il va y avoir des tribulations sur la terre. Mais on parle d'une période de l'histoire vraiment particulière, un temps de jugement des nations rebelles, tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Donc, si on parle maintenant de ce changement, on vient de mentionner, en fait, qu'il y aurait un changement physique de cette épouse, amen, on parle en fait de la résurrection ou de la glorification de notre corps. Si vous êtes intéressé, peut-être vous vous dites, mais comment ça va se passer? Moi qui ai sauvé, né de nouveau, moi qui ai préparé pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, bien, comment est-ce que ça va se passer au niveau de la glorification de mon corps? Est-ce que vous êtes intéressé? Moi, ça m'intéressait. Moi, je trouve ça intéressant comme sujet. Bien, remarquez ensemble dans Romains chapitre 8 au verset 29. Quand nous sommes sauvés, Dieu nous a déjà préparés à vivre une expérience glorieuse qui sera la glorification de notre corps. Romains 8, 29 nous dit, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Au verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Juste en passant, la prédestination, c'est en Christ. Donc, si vous êtes en Christ, vous êtes forcément prédestiné à vivre les choses suivantes. En dehors de Christ, vous n'êtes pas prédestiné, mais c'est en Christ que nous sommes prédestinés. Donc, à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, Dieu connaît déjà à l'avance toutes les personnes qui seront glorifié. Et dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3, nous lisons, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » OK. Donc, ces deux textes-là nous disent, premièrement, le texte en Romains, ce texte-là nous dit que nous serons glorifiés. Amen. Il nous a glorifiés. Dieu qui est en dehors du temps, nous sommes déjà glorifiés dans sa vision des choses. Gloire à Dieu. Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 3, nous parlons ici que cet espoir de glorification nous garde dans la pureté. On veut marcher avec Dieu parce que nous avons cet espoir de vivre la glorification. Et ce que je veux souligner, c'est au verset 2 de 1 Jean 3, donc 1 Jean 3, 2, le texte nous dit que nous serons semblables à lui. Bien, on peut, à ce moment-là, comparer le corps de glorification du Seigneur Jésus-Christ avec le nôtre, et on se dit, OK, bien, nous serons semblables à lui. Donc, si j'étudie le corps du Seigneur Jésus glorifié, bien, je vais être semblable à lui. Alléluia. Bon, regardons ensemble la glorification du corps. Genèse 1, verset 27 nous dit, en fait, que Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Et dans l'image de Dieu, dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 27, nous voyons, en fait, que Dieu a créé l'homme dans une lumière éclatante. En fait, nous sommes, l'être humain a été créé dans une lumière éclatante selon l'image de Dieu qui est une lumière éclatante. Gloire à Dieu. Mais dans Romains 3, verset 23, nous lisons que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand l'être humain a chuté dans le péché, cette gloire, cette lumière éclatante a disparu et c'est alors qu'Adam et Ève ont réalisé qu'ils étaient nus. Mais autrefois, ils étaient revêtus d'une lumière glorieuse. Mais dans notre corps glorifié, la lumière glorieuse reviendra sur nous. Gloire à Dieu. Là, on peut voir qu'il y a des éclats différents, dépendamment de notre obéissance aujourd'hui. Des fois, les gens sont concernés juste par le fait de se rendre au ciel. « Ah, je vais être sauvé parce que je vais aller au ciel. » Oui, amen, on veut aller au ciel, on veut être sauvé, né de nouveau, gloire à Dieu. Mais si on comprend que notre obéissance va avoir un rôle éternel, bien, ce serait bon de vraiment se préparer. Ne pas simplement préparer notre quotidien, mais préparer également notre éternité. Remarquez, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39 à 44. Je vais vous lire ici, en fait, l'importance d'être obéissant dans notre appel sur la terre parce que nos corps glorifiés vont varier au niveau de notre éclat. Et ça, pendant l'éternité. Nous lisons, « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. » Donc, il y a des chairs différentes. Verset 40, « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais aussi est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. » Verset 41 maintenant, c'est très important. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Si vous regardez dans le ciel, vous verrez, oui, les étoiles n'ont pas toutes la même luminosité. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Verset 43 maintenant. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal ou charnel, si on veut. Il ressuscite corps spirituel. S'il a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, on parle d'un corps glorifié, OK, hallelujah, mais qui va avoir un éclat selon notre obéissance. Et peut-être vous posez la question, est-ce que je vais pouvoir reconnaître ma famille au ciel? Est-ce que notre corps sera reconnaissable? Oui. En fait, dans Matthieu 28, verset 9, nous voyons que notre corps sera reconnaissable. Nous pouvons également voir dans Luc 24, 39, la même chose. Est-ce qu'on va pouvoir manger dans notre corps glorifié? Absolument, parce que nous serons semblables au Seigneur Jésus. Et dans Luc 24, verset 41 à 43, nous voyons en fait que Jésus mangeait ici du poisson rôti et un rayon de miel. Il mangea avec eux. Alléluia! Et aussi, notre corps sera... Oui, un corps glorieux, spirituel, mais aussi physique. Dans Luc 24, 39, nous lisons, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc, il y a aussi cette dimension physique, mais qui va être très différente. Cette dimension sera différente. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir passer à travers des portes. Je vais vous le prouver. Jean, chapitre 20, verset 26, « Vous ne serez pas limité comme votre corps est limité aujourd'hui. » Remarquez bien, Jean, chapitre 20, verset 26. « 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux Et il dit, la paix soit avec vous. Donc, le Seigneur Jésus n'a pas frappé à la porte, il n'est pas rentré par la porte, mais il s'est manifesté dans la pièce, là où les disciples se rassemblaient. N'est-ce pas intéressant de voir ça? Ça, c'est vraiment la dimension de votre corps glorifié. Aussi, votre corps glorifié disparaîtra selon votre bonne volonté. Luc 24, verset 31. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alléluia! Et il pourra même changer de forme selon Marc 16, verset 12. Wow! C'est assez impressionnant, n'est-ce pas, comme texte. Donc, on peut prendre le temps. J'espère que vous avez pris en note les versets parce que dans l'émission Vie de foi, avec 30 minutes, on fait un survol assez rapide, mais pour vous aider à comprendre que l'enlèvement de l'Église va se produire. Alléluia! Mais aussi, lors de l'enlèvement, nous allons vivre la résurrection, si nous mourons dans le Seigneur. Mais si nous vivons pendant l'enlèvement, bien, nous allons vivre ce changement qu'on a vu dans 1 Corinthiens 15. Et ce changement, en fait, implique la glorification de notre corps, qui va vraiment changer. Aujourd'hui, si vous êtes ridé, si vous avez des cheveux blancs, bien, le Seigneur va totalement changer votre corps. Il sera glorifié. Il ne sera pas limité comme vous êtes limité aujourd'hui. N'est-ce pas intéressant de découvrir cette vérité dans la parole de Dieu? On ne prêche pas souvent là-dessus parce que peut-être on dit bien dans la vie quotidienne, on n'a pas vraiment besoin de comprendre toutes ces choses, mais la Bible nous dit que nous sommes bénis lorsque nous étudions l'Apocalypse et les choses des temps de la fin. Pourquoi? Parce que le texte nous dit également qu'on se purifie parce qu'on a cet espoir de ne pas simplement vivre dans notre quotidien et juste vivre une vie et mourir et voilà, c'est la fin. Mais on a cet espoir que oui, je vais vivre toute ma vie pour le Seigneur, mais si je suis fidèle, je peux aussi avoir une influence, ma vie aujourd'hui peut avoir un impact pendant mon éternité. Si je suis fidèle au Seigneur, il va me confier des plus grandes choses plus tard. Et même, on verra sur la terre cette catégorie d'hommes glorifiés, des gens qui vont être brillants. Et les hommes naturels qui seront sur la terre, par exemple pendant le millénium, on va y arriver cette semaine aussi, mais ils verront les glorifiés. Ils vont dire, ah! Voilà un glorifié. Ils vont pouvoir voir sur ces gens la gloire de l'Éternel. Allez-vous faire partie des glorifiés? Allez-vous faire partie de cette race particulière? Cette race qui va gouverner sur la terre. Oh, c'est vraiment glorieux. Si vous avez cet espoir, vous allez vivre dans la pureté parce que vous voulez absolument faire partie de ce règne glorieux qui est à venir. Alléluia. Maintenant, après tout ça, on se dit, OK, ben c'est merveilleux. L'enlèvement de l'Église préparée a lieu. Alléluia. Là, l'Église préparée est au ciel, c'est vrai. Mais pourquoi au ciel? Bien parce que c'est à ce moment-là où Dieu va déverser son jugement, sa colère sur la race des hommes rebelles. OK? Donc, pendant ce temps-là, je vous explique rapidement la tribulation. Donc, la tribulation, on peut comprendre que c'est une période de 7 ans, les 3 ans et demi, on parle de la tribulation en général. Et après 3 ans et demi, on parle de la grande tribulation. Donc, c'est les moments les pires de l'histoire de l'humanité. Donc, la tribulation démarre dès qu'il y aura la signature d'une alliance de paix entre Israël et les Palestiniens. C'est pour ça que c'est important de suivre un peu l'actualité. Donc, dès qu'il y aura cette signature de l'alliance de paix, il va y avoir, à ce moment-là, le démarrage, si on veut, de cette période de la tribulation. L'Antichrist et son faux prophète, les deux seront révélés à ce moment-là. Il y aura des cataclysmes mondiaux jugeant les hommes qui auront rejeté Dieu. Et la tribulation servira aussi au salut d'Israël. Donc, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui, mais je veux vous rappeler, vous pouvez tout lire, tout décortiquer en visitant le site web emctv.com où je prends le temps, j'explique verset par verset tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on fait juste un survol général pour vous donner une connaissance générale de l'Apocalypse. Pendant cette période de la grande tribulation, nous parlons dans l'Apocalypse chapitre 6 au verset 17. Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Donc, c'est le jour de la colère de Dieu. Et là, vous vous posez la question, Pasteur Joël, est-ce qu'on va être là, nous, les enfants de Dieu? Certains chrétiens nous disent que nous allons faire partie de cette tribulation. Certains nous disent qu'on devrait vraiment même faire des réserves pour ce grand jour de jugement sur l'humanité. Bien, je ne suis pas contre les réserves. Faites des réserves chez vous, c'est une bonne idée, parce que vous pouvez manquer d'électricité, il peut y avoir des ouragans dans des pays, il peut y avoir des fléaux, oui, même pendant notre vivant. Et même si on voit que la nature vit des choses terribles aujourd'hui, bien, on comprend que ce n'est pas la grande tribulation, mais nous vivons certaines tribulations, c'est certain. Mais nous ne parlons pas de la même période de l'histoire, parce que si nous parlons de la grande période de l'histoire, on peut aller avec l'image numéro 7, s'il vous plaît, en parlant de cette période historique. Dans Matthieu 24, au verset 21, nous lisons « La détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » OK, donc on comprend tout ça. C'est une période terrible, mais vous posez la question, est-ce qu'on va être là, nous, les enfants de Dieu? 1 Thessaloniciens 5, 9 nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Donc, Dieu ne vous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il vous a réservé à être délivré de tout ce qu'on va voir dans le livre de l'Apocalypse. Entre autres, on parle de l'Antéchrist qui va être là. On parle de la marque de la bête qu'on retrouve dans l'Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 18. Et aussi, on va comprendre que l'Antéchrist, qui va être un gouvernement qui va vraiment viser à vivre cette domination universelle, son désir, ce sera de détruire Israël, tout comme Adolf Hitler, tout comme Haman. Cet esprit antisémite va vraiment refaire surface comme jamais auparavant. Même aujourd'hui, on voit des choses, même en Europe, je sais que plusieurs juifs quittent des pays européens parce qu'ils vivent une tension, ils vivent de la discrimination à cause de leur religion et à cause de simplement parce qu'ils appartiennent au peuple d'Israël. Bien, comprenez ceci, que l'esprit d'Antichrist va vraiment se manifester contre le peuple d'Israël. Il va vouloir détruire Israël. Et puis, on retrouve même dans l'Apocalypse 16:16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Dans cette bataille, la moitié de Jérusalem sera prise et beaucoup de Juifs commenceront à être amenés captifs. Donc, nous comprenons que dans cette période de l'histoire, il va y avoir des fléaux. On ne prend pas le temps aujourd'hui de tout décortiquer, mais nous comprenons qu'il va y avoir des moments terribles sur la terre. Si Dieu déverse sa colère sur l'humanité rebelle, bien son épouse qui aimait Jésus, son épouse qui s'est préparée, bien elle est au ciel. Elle est protégée. Elle est avec son époux. Gloire à Dieu. Amen. Donc, elle est avec l'époux au ciel. Elle est protégée des fléaux sur la terre. Donc, je ne crois pas que c'est possible que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, cette Église préparée, je ne crois pas qu'elle peut passer à travers tout ça, là, tout ce qu'on est en train de voir. Mais au contraire, elle va passer devant le tribunal de Christ et elle va recevoir en fait des récompenses selon 2 Corinthiens 5, verset 10. Donc, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ préparée, alléluia, cette épouse préparée sera récompensée. Et oui, absolument, elle sera jugée pour ses croyances, sa conduite envers les gens, sa fidélité, ses paroles, l'utilisation de ses talents, ses attitudes, ses motivations, ses œuvres, toutes ces bonnes choses-là. Et ses œuvres vont passer par le feu, alléluia, et ce qui était pur va ressortir. Et puis, en fait, ensuite, les membres de l'épouse, bien chaque personne va recevoir des récompenses pour sa fidélité. N'est-ce pas merveilleux? On peut voir en fait beaucoup, beaucoup de choses, tellement de couronnes que Dieu va nous donner pour notre obéissance. Et ce qui compte en fait, c'est d'entendre ses paroles dans Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Oh, c'est merveilleux! L'enlèvement de l'Église, la tribulation sur la terre, mais l'épouse de Christ au ciel, en train de recevoir des récompenses, c'est merveilleux. Vous voulez faire partie de l'épouse de Christ, soyez préparés à rencontrer votre Dieu et soyez préparés pour notre étude de demain. On poursuit dans cette étude glorieuse. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.